Les parts actualités.
Nous sommes le 26 mars 2018 avec vous pour la prochaine demi-heure. François Brodeur en remplacement d'Hélène Paradis. Non, pas paradis. Que fais-je, mon Dieu? Denis, oui. merci à Jean-Sébastien. Hélène Denis, donc. Des nouvelles et des entrevues. On commence immédiatement sur la scène nationale. Bonne nouvelle d'abord, puisque des logements sociaux seront construits en face du Centre Bell. La Ville de Montréal a confirmé mercredi dernier l'acquisition au coût de 5,5 millions de dollars d'un immeuble situé au coin des rues Saint-Antoine et de la Montagne afin d'y construire des logements sociaux. L'achat de cet immeuble à tours TDC Developments Inc. a été approuvé par le comité exécutif. Le bâtiment sera détruit et la ville y construira un nouvel édifice pouvant accueillir près de 150 logements sociaux directement dans le quartier des gares. Tour TDC Developments avait acquis cet immeuble au coût de 6,6 millions de dollars en 2008-2009, même si sa valeur marchande est évaluée sous les 4 millions. L'entreprise n'aurait pas accepté de le vendre à moins que 5,5 millions, est-il écrit dans les documents remis aux élus. Le terrain étant contaminé, la municipalité devra débourser près de 800 000 $ pour la décontamination. Ce sont des gestes concrets. On acquiert des terrains et on va construire des logements tels que promis, a souligné la responsable de l'habitation au comité exécutif, Magda Popeanu. À noter que Projet Montréal s'était engagé en campagne électorale à construire 12 000 logements sociaux durant son mandat. On a de nouveaux outils de gestion pour établir nos propres priorités. De l'habitation pour les familles, pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, s'est réjouie la mairesse Valérie Plante. Radio-Canada a rapporté, c'est d'ailleurs le titre, « Normes du travail, Québec veut autoriser plus de semaines d'absence pour aider des proches ». La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, a déposé mardi dernier un projet de loi très attendu pour moderniser les normes du travail. Les modifications concernent notamment la question de la conciliation travail-famille, l'augmentation des semaines d'absence autorisées pour aider des proches dans le besoin et l'interdiction des disparités salariales pour les employés d'une même entreprise. Le gouvernement Couillard va de l'avant avec un projet de loi plutôt volumineux qui vise à modifier de nouveaux thèmes de l'actuelle loi du travail. Les libéraux estiment que le coût de la modification de la loi sur les normes du travail oscillera entre 610 et 696 millions de dollars par an. Le projet de loi prévoit une augmentation du nombre de semaines d'absence autorisées pour aider un proche, selon les besoins de ce proche, de 16 à 27 semaines par année pour être autorisé. Il est précisé dans le texte de 16 pages que certaines de ces journées pourront être prises au bénéfice d'autres personnes que des parents à titre de proche aidant. Certaines de ces journées d'absence pourront être rémunérées. Par ailleurs, en cas de décès d'un enfant mineur, le salarié peut désormais s'absenter du travail durant 104 semaines au lieu de 52 semaines auparavant. La définition de parent est également élargie. Le projet entend désormais par parent l'enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Sans plus attendre, on rejoint M. Paradis, dont le nom de famille a inspiré ma coquille de tout à l'heure. Voilà, Marc Paradis, qui a été pendant longtemps un gestionnaire de résidence pour personnes âgées. M. Paradis, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Bon.
Je vais toujours bien, moi, ou presque.
On se parle ce matin pour situer Picto Sécure, la phase sécure. C'est quoi tout ça? Racontez-moi.
Ben, en fin de compte, moi, au départ, quand j'étais directeur d'une résidence importante de plus de 400 unités, j'avais réalisé que on avait une légende pour identifier l'autonomie des résidents, mais au fur et à mesure que le temps avançait, je me percevais que il n'y avait pas seulement la question de l'autonomie ou la mobilité, mais il y avait aussi une question de, des fois, les personnes avaient des handicaps qui étaient particuliers à leurs conditions.
Oui, on
Donc, j'ai associé la partie mobilité ou autonomie à la partie soit handicap ou conditions de santé particulières, telles que l'oxygène, par exemple, ou lorsqu'ils sont en période de gastro. Donc, j'ai associé ça pour ça. Et en même temps, ça me permettait aussi d'améliorer aussi la rapidité au niveau des interventions, au niveau des exercices d'évacuation, parce qu'on identifiait aussi les logements vacants et les logements où la personne est absente pour une certaine période.
OK. Et bon, il s'agit de pictogrammes qui servent donc dans des situations d'urgence de façon à permettre aux intervenants de se faire une idée très rapidement de ce qui se trouve derrière cette porte, parce que, rappelons-le, crier au feu ou cogner dans la porte d'une personne qui est sourde, ça risque d'être particulièrement inefficace.
Oui. En fin de compte, phase sécure, pourquoi que ça existe aussi, c'est que ça permet aussi d'améliorer le service au niveau des résidents, parce que quand on sait qu'il y a un taux de roulement très élevé au niveau des employés. Donc, en plus d'aider aussi l'intervention au niveau des pompiers, des nouveaux employés ou des employés qui sont là de façon très occasionnelle, ben, d'un seul coup d'œil, la personne est en mesure d'intervenir en fonction des conditions de la personne.
Et on en est où dans ce projet-là actuellement? Il ne s'agit toujours pas d'une norme ou d'un produit qui a été avalisé ou reconnu officiellement?
Non, bien, en fin de compte, le ministère de la Santé est très au courant de mon projet. J'ai reçu beaucoup d'accueils favorables. J'ai même très, très sommairement rencontré le ministre Barrette, qui a trouvé l'idée intéressante et intelligente. La FADOC aussi est très favorable.
Je vous rassure immédiatement, il semblerait que toutes les rencontres du ministre Barrette soient assez sommaires.
Oui, mais il faut dire qu'il était très sollicité. Donc, il y avait peu de temps pour moi aussi. Mais tout ça pour vous dire que tous les organismes gouvernementaux sont très, très favorables à mon projet. Je suis en période de mettre le projet en commercialisation pour le faire adopter plus particulièrement pour les RPA, les résidences personnes aînées, mais aussi pour d'autres types d'habitations où on peut retrouver des personnes ayant une autonomie, une mobilité ou des handicaps particuliers. Donc, ça peut s'adapter en fonction de plusieurs types d'occupants.
Oui, on peut même penser au milieu hospitalier ou au CHSLD un coup parti.
Oui, ben il faut dire que ça, c'est un domaine qui est assez complexe pour pouvoir implanter des choses, parce que ça prend surtout du temps. Hein. Donc, peut-être que ça pourra être fait, mais pour l'instant, ma clientèle cible est plus particulièrement les résidences personnes aînées que je pense qu'ils devraient adopter ce système de repère visuel-là pour pouvoir améliorer la sécurité et les services à leurs résidents.
Vous avez commencé par un projet pilote.
Oui, qui s'appelait PictoSécure.
Et ça avait l'air en pratique.
C'était à Victoriaville. Oui. Et on avait commencé ça parce que justement, mon idée, elle était arrivée de là. Et on voulait voir un peu quels étaient les résultats. Donc, ce fut un projet pilote qui a été un succès. Ça a donné un grand sentiment de sécurité au niveau des familles et des résidents. Et ça a permis aussi pratiquement un argument de location, parce que les gens voyaient que à titre de propriétaire, on se préoccupait de la sécurité et des services des résidents.
Et l'accueil fait chez les intervenants d'urgence, là, je pense spontanément aux pompiers et aux ambulanciers, ça a été quoi?
Bien, pour les services pompiers, moi, je travaille avec les services incendie, plus particulièrement ici, je suis à Lévis, moi, et je travaille avec les et l'accueil a été excellent parce que moi, j'apporte toutes sortes d'options au niveau de l'identification ou de l'indication lorsque le logement est évacué. Donc, on sait qu'actuellement, il y a toutes sortes de façons d'indiquer que le logement est évacué. Il y a les oreillers, les affichettes.
Le coup de craie dans la porte ou... oui.
Les coups de craie, il y a de tout, c'est ça. Et moi, ben, je m'adapte en fonction de tous les services incendies, mais c'est très, très bien accueilli parce que ça permet aux pompiers de connaître, par exemple, que si la personne est sourde, à malentendante, ben, ils vont insister, ils vont aller voir. S'ils savent que la personne est en marchette ou en déambulateur, ben, ils vont être plus informés, donc ils vont pouvoir adapter aussi leur intervention.
Donc, ça pourrait devenir quelque chose de très, très, très répandu dans les prochaines années. Dans les résidences, bien sûr.
Oui.
Mais qu'est-ce qui empêche?
On espère, hein? Moi, c'est moi, mon objectif, qui bien entendu, qu'en tant que promoteur de ce projet-là, mm-hmm. mon objectif, c'est d'améliorer la sécurité et les services aux résidents, mm-hmm. Parce qu'on sait que les gicleurs, c'est important, c'est super important, les gicleurs. Mais les gicleurs, ça sert lorsqu'il y a un incendie seulement, alors que phase sécure sert pratiquement tous les jours, mm-hmm. sert lors des exercices, améliorer le temps alloué aux exercices d'évacuation, améliorer les services aux résidents, parce que les employés savent à qui ils ont affaire, en fin de compte.
Mm-hmm.
Donc,
en terminant,
mais actuellement, ouais. L'emphase est mise uniquement ou presque exclusivement sur les gicleurs.
En terminant, M. Paradis, si nos auditeurs veulent en apprendre plus sur ce produit, ce service-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Ben, j'ai pu créer un site web qui s'appelle mm-hmm. Phase Sécure. Donc, comme une phase, PHASE et Sécure, SECUR. Donc, mm-hmm. à ce site web-là, vous allez avoir toutes les informations. Et bien entendu que phase, c'est un acronyme hein, pour le P pour pictogramme et plaquette, le H pour handicap, le A pour autonomie, le S pour sécurité et le E pour efficacité.
Mm-hmm. Et ça pourrait devenir un lieu commun dans toutes les résidences de personnes âgées au Québec sous peu. Monsieur Paradis, il me reste à vous remercier de nous avoir donné une entrevue et à vous souhaiter bonne chance.
Ben, je ne peux que vous remercier. Je vous souhaite une belle journée à vous aussi.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Dans les nouvelles régionales, je prends la liberté de vous parler d'abord d'Alzheimer, puisqu'il y a quelqu'un dans la région des Cantons de l'Est qui a dénoncé une situation d'intimidation très particulière à bannir, ce que rapporte Tommy Brochu dans les pages de La Tribune. Les gens souffrant de la maladie d'Alzheimer sont souvent victimes d'intimidation. Pour la chargée de projet et animatrice à la Société Alzheimer de l'Estrie, Sophie Robillard, des discussions sont nécessaires pour que les aînés soient sensibilisés à la situation. Selon Mme Robillard, les aînés malades sont victimes de deux types d'intimidation, sociale et verbale. L'intimidation sociale, c'est de l'exclusion. C'est de ne pas inclure une personne dans les activités car elle n'est pas assez vite, car elle oublie tout le temps. Aussi, celles-ci se font parfois insulter ou les gens font des commentaires comme « elle n'est pas vite », qui peuvent blesser la personne malade, indique-t-elle. Il y a plus d'intimidation chez les gens atteints d'Alzheimer que chez les aînés en général, poursuit Sophie Robillard. Quand les personnes sont malades, elles ont parfois des comportements déroutants. Ils ont un comportement involontaire qui est causé par la maladie, qui occasionne de l'inconfort et des questionnements chez les personnes autour d'eux. Même s'ils sont malades, la plupart des gens exclus comprennent qu'ils sont laissés de côté. Certains s'en rendent compte, et d'autres non, explique l'animatrice. En début de maladie, ils comprennent très bien ce qui est en train d'arriver, ça paraît sur leur comportement. Ils vont s'isoler un peu plus. Ça blesse autant quelqu'un de malade que n'importe qui. Cette situation existe depuis longtemps, selon Mme Robillard. C'est comme à l'école. Ça doit exister depuis que les maisons pour personnes âgées existent, mais on en parle peu et c'est peu dénoncé, affirme-t-elle. Pour sensibiliser les aînés, Mme Robillard se déplacera dans les nombreuses résidences pour personnes âgées de l'Estrie. Des 50 résidences visées, déjà 30 se sont dites intéressées à recevoir la visite de la Société Alzheimer de l'Estrie. On a tourné des capsules vidéo qui mettent en scène des situations d'intimidation, explique Mme Robillard. Avec l'aide du public, on réfléchit à des scènes alternatives à l'intimidation. Dans la deuxième portion, il y a un jeu questionnaire qui sert à défaire les mythes et à donner de l'information sur la maladie d'Alzheimer. La campagne contre l'intimidation du ministère de la Famille nous a aidés à démarrer le projet. Les conseillères et accompagnatrices ont vu des situations. On trouve important de mettre cela sous les projecteurs. Les capsules sont généralement faites à partir de faits vécus, assure l'animatrice. Les premiers rendez-vous sont prévus pour le 3 avril. Radio-Canada rapporte une statistique inquiétante. Une moyenne de 14 médicaments par résident dans les CHSLD. Les résidents des CHSLD du Québec ont chacun, en moyenne, près d'une quinzaine d'ordonnances différentes de médicaments. Cela entraîne des risques pour leur santé, mais les pharmaciens d'établissement disent manquer d'effectifs pour revoir leurs médications. Edward Bissonnette s'agrippe à la main de sa fille qui lui rend visite chaque jour au CHSLD d'Argenteuil. L'octogénaire a perdu l'usage de la parole, mais pas le sens du toucher. M. Bissonnette souffre d'une maladie neurologique, mais on a réussi à diminuer la quantité de médicaments qu'il consomme. Il est arrivé il y a 5 ans avec 12 médicaments. Aujourd'hui, il n'en a que 5, relate sa médecin Sandrine Lascombes. Une réduction qui aurait sensiblement amélioré sa qualité de vie. Ça provoquait des chutes, de la somnolence, des effets secondaires marqués, témoigne la docteur Lascombes. Le CHSLD d'Argenteuil a réussi à instaurer une révision annuelle des médicaments en plus d'une première analyse à l'arrivée. Mais la méthode appliquée au CHSLD d'Argenteuil est loin d'être la norme dans le réseau. On parle d'art de la scène avec Mme Marie-Lyne Turcot, qui est directrice générale de Libre et Sauvage, un fauteuil motorisé, oui. Mme Turcot, vous êtes là?
Oui, bonjour.
Bonjour. C'est la première fois que je vous parle et je vous avouerai à ma courte honte que Libre et Sauvage, je connaissais, mais pas du tout avant de lire mes notes. Alors, pourriez-vous nous en parler un peu?
Bien, en fait, Libre et Sauvage, on est un organisme à but non lucratif, culturel, qui est inclusif aussi. On travaille donc avec des artistes qui ont des limitations fonctionnelles, mais aussi des jeunes artistes de tout genre qui n'ont aucune limitation. Ou encore cette année, on travaille avec des artistes du troisième âge, en fait, 50 ans et plus.
Mm-hmm. Des artistes d'expérience, donc.
Oui.
On vous a convié aujourd'hui parce qu'on voulait parler du projet Entre deux. C'est quoi le projet Entre deux particulièrement?
Mais à chaque année, en fait, Libre et Sauvage travaille sur un projet annuel. Donc, mm-hmm. Entre deux, c'est notre 7e projet annuel cette année. L'équipe a décidé de se lancer sur une pièce de théâtre et aux couleurs de Libre et Sauvage. Donc, c'est très multidisciplinaire, très coloré, très abstrait. Donc, Entre deux, c'est vraiment une pièce de théâtre qui va parler de l'écho et de la lumière. Donc, c'est encore une thématique assez abstraite, mais je crois que les artistes de l'équipe ont réussi à dépeindre une histoire assez intéressante.
OK. Je vous dirais comme ça, vite de même, que l'écho et la lumière comme présentation, ça...
C'est assez abstrait, en effet.
Alors, pourriez-vous, je ne sais pas, juste me dire un peu de quoi ça a l'air en pratique?
Mais en fait, la pièce de théâtre va durer 1 heure et demie, donc on va suivre. On va suivre vraiment deux personnages principaux qui vont représenter l'ego et la lumière et qui vont traverser plusieurs tableaux émotifs, donc dans leur relation, dans leur dualité, dans le but de trouver, peut-être le trouveront-ils ou non, un équilibre afin de comprendre la vie, si on veut.
Mm-hmm. Un équilibre entre elles et aussi avec elles-mêmes.
Exactement. Donc, mm-hmm. en fait, c'est de trouver l'équilibre soi-même, mais comme on a voulu dépeindre cette dualité plus physiquement, on a décidé de découper une personne en deux personnes.
Mm-hmm. Qui sont les comédiens?
On a vraiment des artistes de tout genre. Donc, on a des comédiens autant qui ont des limitations, donc qui sont soit intéressés par le milieu culturel ou qui ont déjà des expériences autres. Sinon, on a une danseuse aussi avec nous qui va avoir un rôle assez important. Sinon, on a en partenariat avec l'OBNL d'habitation Le Pélican, les habitations Le mm-hmm. Pélican, on a 3 résidentes du Pélican qui sont des comédiennes avec nous aussi. Donc, on est vraiment allé chercher des gens autant dans le milieu communautaire que dans le milieu culturel ou des artistes qui sont à la fois émergents ou amateurs. Donc, c'est une belle équipe diversifiée avec des talents aussi, des talents en numérique, en tout ce qui est projection, tout le côté un peu plus interactif, visuel, parce mm-hmm. qu'avec une thématique égo-lumière, on s'entend que le décor est assez intemporel et non très...
Ça, ça vient comme ça que, vu de mon côté du micro, ça ressemble beaucoup à quelque chose de Robert Lepage, ou
Oui.
dans le propos comme dans la forme.
Exactement, oui.
Juste pour être sûr qu'on n'oublie pas, là. Ça a lieu où? C'est quand? C'est
On va
combien?
avoir des représentations. Notre première va être à la Maison de la culture Antique-Cartierville le 1er juin et on va avoir une seconde représentation le 2 juin. Évidemment, l'événement va être accessible du mieux qu'on peut. Tous les détails vont être disponibles très bientôt sur notre site Internet, donc librairiesauvages.org. Et on risque d'avoir des supplémentaires à l'automne. Donc, on est très, très content de cette belle visibilité que peut avoir le projet cette année.
Et pour les gens qui seraient tentés de ne pas vous prendre au sérieux, Librairie Sauvage, c'est quand même quelque chose qui a déjà été primé.
Oui. Bien, en fait, cette année, on a été récipiendaire du prix Création Mon Rêve. Et l'an dernier, le projet annuel s'est promené vraiment dans plusieurs festival montréalais, on a exposé dans les grandes bibliothèques Marc Favreau, on a été à l'Hôtel de Ville, donc les projets de Librairie Sauvage, c'est encore discret, mais sont toujours présents dans la scène culturelle à Montréal. On fait notre chemin tranquillement.
Et on vous souhaite quoi pour ce projet-là précisément? Des supplémentaires, une tournée à travers le Québec?
Ah ben ça, c'est un rêve certain que moi, c'est sûr que moi, je dis oui à la tournée, évidemment, mais je nous souhaite de continuer le plaisir qu'on a à créer ce beau projet, mais je nous souhaite aussi des salles combles, une belle visibilité et continuer de propager l'esprit libre et sauvage un peu partout à Montréal et peut-être au Québec ensuite.
En terminant, juste parce que je ne me rappelle pas si on a abordé le sujet, puis encore là, j'ai honte. Est-ce qu'il y a un coût pour assister à la représentation?
Il va y avoir des coûts pour au début, mais on travaille pour avoir des représentations gratuites dans un contexte plus précis. Donc, tous les détails vont être sur notre site Internet, on va vraiment... l'information va être très exhaustive.
OK. Il me reste à vous laisser le mot de cambronne, finalement, puisqu'on est à la radio et qu'il faut quand même se garder une petite gêne, et à souhaiter une longue vie à votre pièce.
Bien, merci beaucoup.
Merci, Mme Turcot. Passer de militaire à double médaillé paralympique, c'est ce qui est arrivé à l'athlète paralympique québécois et ex-militaire de la base de Valcartier, Dominique Larocque, qui est de retour de Pyeongchang avec une médaille d'argent à son cou. Médaille qu'il a pu montrer à des dizaines de jeunes handicapés ce week-end à Québec. Il était un des invités spéciaux de la 8e édition du Challenge hivernal au Centre sportif Marc Simoneau, un événement qui a une signification bien particulière pour lui. C'est là que son ascension a débuté. Amputé d'une jambe lors d'une mission en Afghanistan en 2007, son parcours est exceptionnel. Médaillé de bronze à Sotchi, il ajoute une médaille d'argent obtenue en Corée du Sud. Je suis très fier de la médaille et de la performance qu'on a faite là-bas. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait la médaille qu'on souhaitait, concède-t-il. Qu'à cela ne tienne, il a été accueilli en héros au Centre sportif Marc Simoneau. Il est pour plusieurs athlètes, jeunes et moins jeunes, une véritable source d'inspiration. Son amputation est semblable à la mienne. Quand j'ai commencé le hockey sur luge, Dom Larocque était une idole pour moi. Il a encore toute mon admiration, nous a raconté une jeune joueuse. Originaire de Shannon, Dominique Larocque ne ferme pas la porte à une participation aux Jeux paralympiques de Pékin en 2022, et c'était un texte de TVA Nouvelles. NewsOntario.ca rapporte que l'Ontario investit de manière historique dans les soins de santé mentale. Cet investissement, le plus important de l'histoire du Canada, va améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. L'Ontario fait un investissement sans précédent afin d'améliorer les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie. Le tiers des Ontariennes et des Ontariens connaissent un problème de santé mentale ou de dépendance à un moment donné de leur vie. Il s'agit d'un investissement de plus de 2,1 milliards de dollars sur 4 ans qui repense le système afin d'offrir des soins plus accessibles et mieux intégrés. Cet investissement facilitera l'accès aux services en les rendant accessibles dans les écoles, les cabinets de médecins de famille ou les organismes communautaires. Voici aussi ce que cela signifiera. Premièrement, en 2018-2019, plus de 12 000 jeunes de plus seront en mesure d'accéder à des services communautaires comme les services de thérapie et de counseling. Ensuite, chaque école secondaire de l'Ontario aura accès à des intervenants en santé mentale supplémentaires grâce au recrutement d'environ 400 nouveaux intervenants d'ici 2 ans. Troisièmement, la province créera au moins 15 nouveaux carrefours bien-être pour les jeunes sur une période de 4 ans. Quatrièmement, jusqu'à 350 000 personnes de plus qui souffrent d'anxiété ou de dépression légère à modérée auront accès à une psychothérapie structurée financée par des fonds publics. Et enfin, la province créera 2 475 nouveaux logements avec services de soutien supplémentaires en 4 ans. Une nouvelle de Radio-Canada, Nouvelle-Écosse, un budget équilibré et des surplus qui dépendent du cannabis. Le gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse a présenté mardi dernier un troisième budget équilibré consécutif marqué par des investissements en santé s'appuyant fortement sur les revenus anticipés de la légalisation prochaine du cannabis afin de dégager des surplus. La province prévoit un surplus de 29 millions pour l'exercice financier 2018-2019. De cette somme, environ les 2/3, ou 20 millions, seraient subordonnés à la légalisation du cannabis, selon le gouvernement. Le budget présenté par la ministre Cassé, le second depuis la réélection du gouvernement libéral de Stephen McNeill, prévoit des dépenses de 10 milliards et des revenus de 11 milliards au cours de l'exercice financier à venir. Les revenus de la province devraient augmenter de 236 millions. Et voilà qui termine cette édition du 26 mars 2018 de vos Par Actualité. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et vous invite à revenir demain alors que Hélène Denis sera de retour à ce micro. Merci.